Un an de plus pour organiser les élections provinciales en Calédonie. Le texte de loi a été adopté à l'unanimité par les députés la nuit dernière. Le Mondor limite la casse budgétaire pour la fin de l'année malgré une coupe de 800 millions dans son budget 2024, mais des inquiétudes pèsent pour 2025. Former le personnel des établissements scolaires à la lutte contre le harcèlement, une formation de 2 jours est menée au Collège public de la Foi et doit permettre la mise en place d'une équipe dédiée. Initier les jeunes à l'archéologie, une classe de terminale du lycée de Pointe-Boute a mené une journée de fouilles sur la plage de Fouet à Conné. Et puis dans la région, nous verrons à la fin de ce journal que l'élection de Donald Trump a suscité des réactions de la part des dirigeants de pays du Pacifique Sud. Bonsoir et bienvenue dans ce journal pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Et avant de développer tous ces titres, le pronostic vital engagé pour 2 passagers impliqués dans un accident de la route à la Tamoua. Vers 15h30 cet après-midi, une 206 a fait une sortie de route et elle a percuté le bas-côté en face de l'ancienne boucherie dans le sens sud-nord. À bord du véhicule, 5 passagers, 2 d'entre eux sont gravement blessés. Une personne a même dû être réanimée sur place. Un hélicoptère du SAMU s'est posé sur la voie pour l'évacuer. La RP1 a donc été totalement coupée à la circulation pendant une demi-heure avant d'être ouverte en alternance. Le blessé grave réanimé sur place a finalement pu être transféré par hélicoptère vers 17h. L'autre a été évacué par voie terrestre avec 2 autres blessés légers. Le 5e passager du véhicule a pris la fuite après l'accident. La circulation reste alternée le temps de l'intervention des gendarmes qui sont toujours sur place. Les députés ont donc adopté à l'unanimité la loi organique qui reporte les élections provinciales jusqu'au 30 novembre 2025. Un vote qui, selon le ministre des Outre-mer, doit permettre un apaisement, un nouveau départ et la reprise du dialogue, Elisabeth Noir.
Les députés ont donc adopté effectivement à l'unanimité par 297 voix la loi organique qui avait été adoptée par les sénateurs le 23 octobre dernier. Elle reporte à la fin novembre 2025 l'organisation des élections provinciales qui devait à l'origine se dérouler le 12 mai 2024 avant d'être reportée une première fois à avant le 15 décembre 2024. Il reste donc 1 an pour renouveler les assemblées de province et le Congrès, un délai qui doit permettre d'apaiser la situation, estime le ministre des Outre-mer François-Noël Buffet, qui pendant le débat a défendu le report des élections pour permettre, dit-il, la reprise des discussions.
Plutôt que se tourner en permanence sur le passé et peut-être même ses erreurs, il me semble indispensable aujourd'hui de nous tourner vers l'avenir. Nous le devons aux Calédoniens dans leur entier, comme à l'ensemble de nos concitoyens. Une sortie de crise durable et prospère doit à l'évidence être bâtie avec beaucoup de respect et beaucoup d'humilité. Outre les enjeux économiques et sociaux qui devront être abordés, l'organisation et la compétence des pouvoirs locaux, la composition du corps électoral et son élargissement pour les prochaines élections provinciales, ainsi que les différents autres sujets de nature institutionnelle. La voie est à l'évidence étroite. Et chacun le sait, plus encore qu'elle ne l'était ces dernières années, et ne pourra s'élargir que si la volonté de vivre ensemble et la recherche sincère des modalités de ce vivre ensemble l'emportent sur des considérations autres.
Les députés calédoniens sont bien sûr intervenus dans le débat. Le député Emmanuel Thibault a évoqué le sort des militants emprisonnés en métropole à la suite des émeutes. Pour le député indépendantiste, il s'agit bien de prisonniers politiques et il réclame leur amnistie. Il a également évoqué la situation actuelle de la Nouvelle-Calédonie.
Aujourd'hui, ces équilibres, ils ont été fragilisés. Et c'est l'engagement que je porte au nom des élus du Congrès qui ont voté à la quasi-unanimité le report de ces élections. Aujourd'hui, on sollicite de faire avec nous, pas faire sans pour Kanaky, Nouvelle-Calédonie, mais pour l'ensemble des Outre-mer. Il est temps de refermer la parenthèse coloniale dans notre pays. Car nous sommes fatigués de toujours avoir à répéter qu'en tant que peuple colonisé, depuis 170 ans, nous n'aspirons qu'à une seule chose, recouvrer la liberté.
Le député de la seconde circonscription qui a aussi évoqué le nouvel accord que les parlementaires devront ratifier.
On a ouvert ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit à l'autodétermination à nos compatriotes. Aujourd'hui, nous assumons ce droit et on le porte au sein de cette enceinte pour aborder l'écriture de cette nouvelle page. Si un accord doit arriver, le Parlement devra le ratifier. Et c'est la première étape, c'est celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ne décidez pas à notre place, faites avec nous.
Emmanuel Thibault parle de Kanaky Nouvelle-Calédonie comme plusieurs députés de gauche. Une appellation qui a agacé Nicolas Metzorf, qui s'est livré à une mise au point quand il est intervenu à la tribune de l'Assemblée.
Quand on se prévaut de l'accord de Nouméa, de la Constitution, parce que l'accord de Nouméa est constitutionnalisé, on le respecte à la lettre. Et il était dit dans les paragraphes de l'accord de Nouméa que les signes identitaires, dont le nom de la Nouvelle-Calédonie, étaient choisis aux 3/5 du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et jusqu'ici, officiellement, le nom de la Nouvelle-Calédonie, c'est Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas Kanaky, ce n'est pas Kanaky-Nouvelle-Calédonie, et ce n'est pas Nouvelle-Calédonie-Kanaky. Il faut respecter le choix des Calédoniens et la Constitution de la République.
Le député de la première circonscription a aussi évoqué le rôle de l'État dans les prochaines négociations, alors que plusieurs députés avaient invoqué l'impartialité de l'État.
L'État ne peut pas être impartial quand il s'agit de faire respecter un résultat démocratique. L'État ne peut pas être impartial entre la France et l'indépendance, puisque les Calédoniens ont choisi par 3 fois la France et que le résultat n'est pas contesté par les instances internationales. L'État ne doit même pas être impartial, je rajouterai pas entre indépendantistes et non-indépendantistes, mais entre démocrates et ceux qui veulent le chaos. Parce que dans les indépendantistes, il y a des démocrates. Vous ne pouvez pas être impartial, monsieur le ministre, entre ceux qui cassent et ceux qui construisent. Vous ne pouvez pas être impartial, monsieur le ministre, entre ceux qui veulent le vivre ensemble et ceux qui ne le veulent pas. Vous ne pouvez pas, monsieur le ministre, être impartial entre ceux qui veulent le dialogue et ceux qui ne le veulent pas. Parce que ce n'est pas seulement la Nouvelle-Calédonie française qui se joue, c'est la démocratie en Nouvelle-Calédonie et le respect de l'État de droit.
Le député Nicolas Merzdorf, qui à la fin de son intervention, a interpellé très directement le ministre chargé des Outre-mer.
Je rajouterai, monsieur le ministre, que votre responsabilité est grande parce que, aux yeux des Calédoniens, vous n'êtes pas ministre. Aux yeux des Calédoniens, vous n'êtes pas le gouvernement. Aux yeux des Calédoniens, vous n'êtes pas l'État. Aux yeux des Calédoniens, vous êtes le visage de la France, pour lequel ils se sont tant battus et pour lequel ils espèrent encore que ces valeurs soient respectées, même à 22 000 km de Paris.
À l'issue de l'examen du texte, les députés ont donc adopté à l'unanimité la loi organique qui reporte les élections provinciales jusqu'à fin novembre 2025. Et le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, a exprimé sa satisfaction.
Oui, je ne cache pas ma satisfaction sur la nature du vote qui est unanime dans les deux chambres. C'est un message très fort. Et puis sur la qualité des débats aussi. Chacun s'est exprimé librement. J'ai trouvé globalement un débat respectueux, à la hauteur de la situation. Et d'ailleurs, chacun a pu parfaitement relever l'urgence qu'il y a à trouver des solutions pour la Nouvelle-Calédonie. L'urgence immédiate, économique, sociale, la construction d'un projet pour l'avenir de ce territoire qui est absolument magnifique. Il faut quand même le dire aussi. Il y a des choses catastrophiques, mais il y a des choses qui sont positives. La Nouvelle-Calédonie est un très très beau territoire. Donc il faut lui donner les moyens de se reconstruire, donner aux Calédoniens, à tous les Calédoniens, la possibilité de retrouver du travail. Ça, c'est une chose. Et puis il y a le côté institutionnel, où tout le monde, évidemment, a évoqué le sujet. Ça fait partie des discussions qui vont s'ouvrir à partir de maintenant. Donc, oui, un climat qui semble plus apaisé, en tous les cas, une volonté parlementaire, là, qui milite pour l'apaisement, pour le débat, pour la discussion. C'est tout ce que souhaite le gouvernement. Et maintenant, nous allons continuer de travailler pour avancer. J'allais presque dire à la fois le plus rapidement possible, parce que c'est nécessaire, mais avec le temps nécessaire, parce qu'il faut du temps pour avoir un projet qui soit solide.
Le ministre des Outre-mer au micro de notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Prochain épisode après cette adoption de la loi organique, la visite des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, pour une mission de dialogue et de concertation. Le ministre des Outre-mer a aussi confirmé la venue à la fin du mois de la mission interministérielle conduite par Emmanuel Moulin, qui est l'ancien directeur de cabinet de Gabriel Attal à Matignon. Une mission interministérielle qui devra préfigurer un équipage et une façon de faire pour la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie.
Restrictions budgétaires pour la commune du Mont-d'Or. Lors du conseil municipal ce matin, les élus ont adopté une décision modificative du budget principal et du budget annexe eau. La commune prévoit donc une coupe budgétaire de 800 millions de francs pour la fin de l'année. Aucun secteur n'échappera à cette baisse du budget. Malgré tout, pour cette année 2024, la trésorerie est encore positive, mais ce ne sera peut-être plus le cas l'année prochaine, a confirmé le maire du Mont-d'Or, Eddy Le Courrieux.
Le budget 2024, c'était environ 6,1 milliards, et aujourd'hui, on est à 5,2 milliards. On va avoir certainement l'année prochaine des diminutions plus importantes. Là, ça a été le premier volet, là, mais non, je pense que ça va être plus compliqué. On finira la fin de l'année avec un excédent, mais qui sera très, 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 très limité. C'est juste grâce à un emprunt qu'on a pu avoir il y a un mois et qui viendra amener un petit peu du beurre dans les épinards.
Comme les autres communes, le Mont-d'Or ne perçoit pas le fonds intercommunal de péréquation, le FIP, que doit lui verser le gouvernement et craint aussi de ne pas percevoir les centimes additionnels générés habituellement par les factures d'eau ou d'ordures ménagères, par exemple. Pour Nina Julier, membre de Génération Mont-d'Or, une aide de l'État est indispensable.
Comme je le disais à la province sud, sans une aide massive de l'État pour aider les collectivités, la commune du Mont-d'Or, comme les autres, devra passer sous tutelle de l'État, avec des coupes budgétaires drastiques qui vont forcément toucher les emplois. Et on ne veut surtout pas en arriver là. On sait déjà qu'il va y avoir des impacts sur les cantines, sur le transport scolaire, sur les bourses. Et on va essayer de préserver nos agents, mais sans aide massive de l'État, si l'État n'entend pas qu'on est au bord du précipice, les communes vont littéralement faire faillite. Et là, ça va être vraiment très, très compliqué pour tout le monde.
Malgré les contraintes budgétaires au Mont-d'Or, la commune va lancer deux projets importants. La réalisation de travaux d'extension du cimetière de Ploum, qui devrait être terminé en juillet 2025. Coût total du chantier, 88 millions de francs. Mais il doit aussi lancer la création d'un centre d'incendie et de secours au col Barreau, au Mont-d'Or Sud. Ce centre devrait se situer non loin de l'école primaire Les Coccinelles, un emplacement qui est une évidence pour le maire Eddy Lecourieux.
Tout le monde a admis que les gens du Sud avaient eu besoin de cette caserne pendant les derniers événements et qu'ils ne verraient pas d'un bon œil qu'elle soit déplacée. J'ai même fait une allusion au commissaire en disant que cette caserne, elle serait mise exactement là, à la sortie de la route entre la mairie du Mont-d'Or et la coulée, qui permettrait aux camions de pompiers de venir sur la partie nord en 3 minutes. Quand on est maire, il faut prendre la meilleure option. Il faut savoir qu'il y a 50% d'intervention sur la partie nord et 50% d'intervention sur la partie sud. Voilà, j'allais dire quelque part, là, le choix, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Il se fait de lui-même. Si demain, il devait y avoir à nouveau des problèmes sur cette partie du territoire, eh ben, au moins, il y aurait ses agents. Et ce qui est intéressant, c'est même dans ces budgets difficiles, on est capable de sortir quand même ce projet.
Les travaux d'un montant total de 500 millions de francs devraient débuter l'an prochain pour durer environ 2 ans et demi. Dans un communiqué, l'association citoyen mont-dorien se félicite de voir se réaliser ce projet de centre de secours au col Barreau, c'est-à-dire au Mont-d'Or Sud, plutôt qu'à Saint-Michel. Selon le bureau de l'association et son président, la position de cette caserne permettra également un déploiement rapide sur le nord par la future voie de désenclavement. C'est le haut-commissaire Louis Lefranc qui sera demain midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence pour un point de situation près de 6 mois après le déclenchement des violences insurrectionnelles. Quelle est la situation sur le terrain? Où en sont les aides de l'État pour la reconstruction économique? Et quel est désormais le calendrier politique? Ce sont les thèmes qui seront abordés avec le haut-commissaire. Louis Lefranc, invité de Transparence, est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Et puis c'est le père Éric Simoneau qui sera demain l'invité du matin. Il était présent sur le territoire ces derniers mois comme aumônier des gendarmes mobiles. Et avant de quitter la Nouvelle-Calédonie, il nous a fait part de son expérience et de la manière dont il a vécu la situation calédonienne. Un territoire qu'il connaît bien pour y avoir effectué des séjours réguliers depuis une quarantaine d'années. Une interview du père Simoneau, aumônier des gendarmes mobiles, que vous pourrez donc suivre demain à partir de 7h30. Il est 11h58, il est 17h58, pardon, on va marquer une première pause et se retrouver dans un instant pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange? Les programmes à faible température comme ECO permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces EcoConso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
La vie est faite d'imprévus, de changements, d'incertitudes.
Bienvenue!
Mais un accompagnement personnalisé offre de nouvelles perspectives. Les défis se transforment en opportunités. Demain se réinvente et vous appartient. Crédit à la consommation, financement professionnel, BCI. Le coup de pouce dont vous avez besoin. Offre commerciale disponible. Parlez-en à votre conseiller BCI.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Jean-François Baudin.
Et c'est aujourd'hui une journée de lutte contre le harcèlement scolaire, un phénomène qui ne cesse d'inquiéter les parents comme la communauté éducative. À cette occasion, le collège public de La Foy bénéficie aujourd'hui et demain d'une formation pour lutter contre le harcèlement organisée par le vice-rectorat. Elle s'adresse aux enseignants et à tout le personnel de l'éducation nationale et elle est délivrée par Gérald Giacomino. Il est conseiller principal d'éducation, référent en matière de sécurité, sûreté et gestion des faits de violence, dont le harcèlement, dans les collèges et les lycées publics.
C'est une formation qui est délivrée pour mettre en place sur ces 2 journées un protocole de repérage et de traitement des situations de harcèlement. Donc, rédaction de ce protocole, qui est le cadre de fonctionnement sur la mise en œuvre de tout ce qui permet de repérer de manière précoce les situations qui pourraient être ensuite de devenir du harcèlement. Et puis, la deuxième chose, c'est l'installation d'une équipe ressource au sein de l'établissement, des personnels volontaires, donc qui reçoivent une formation spécifique sur ces deux jours, pour être en conseil, en accompagnement sur les questions de harcèlement et en prendre en charge, traiter des situations. Donc on a des personnels volontaires qui participent à la formation et parmi eux, des personnels qui vont faire le choix de faire partie d'une équipe ressource. Et cette équipe ressource va, pendant l'année scolaire, prévoir des actions de prévention, de repérage, et puis sera amenée à traiter les situations qui surviennent et qui sont portées à sa connaissance.
Une formation précieuse pour Thomas Long, le principal du Collège de la Foi, et qui doit bénéficier au maximum de personnel du Collège.
On a une formation dédiée aux enseignants et au personnel de l'éducation nationale pour essayer de lutter contre ce fléau. Quand je dis personnel, c'est que ça peut être aussi la secrétaire de direction en fait partie, les adjoints d'éducation, de la vie scolaire. On a aussi le personnel de l'internat qui viennent, l'assistante sociale, l'infirmière. Donc tous les personnels de divers horizons sont mobilisés pour se former afin d'être mieux armés pour lutter contre le harcèlement, sachant qu'il faut avoir des talents ou en tout cas des qualités pour pouvoir d'abord le détecter et après le traiter.
Et cette formation au Collège public de la Foi se terminera demain. Formation contre le harcèlement scolaire. Les forces armées peuvent représenter des opportunités pour les entreprises calédoniennes. C'est le message passé ce matin lors des rendez-vous de l'économie de la CCI. Les FANC et la Marine nationale ont rencontré les chefs d'entreprise dans l'amphithéâtre de la Chambre consulaire pour présenter leurs besoins. Le capitaine de frégate Clad est en charge des métiers relatifs à l'industrie navale et à la maintenance.
L'objectif, c'était de, en lien avec la crise actuelle, c'est de créer un lien entre les entreprises et les forces armées, montrer les opportunités qu'il y a, les projets du ministère des Armées sur le territoire pour éclairer la façon dont les entreprises pouvaient répondre à nos besoins, potentiellement leur créer de la charge, ou en train de leur indiquer la charge qui pouvait être prise et identifier des orientations de développement économique à court ou moyen terme. Dans mon périmètre de la maintenance navale, j'ai essayé d'éclairer la communauté du tissu industriel sur des pistes, donc du plan de charge, de futurs marchés qui seront notifiés l'année prochaine sur la déconstruction des patrouilleurs de 400 tonnes qui sera sur le territoire et également un marché d'immultispécialité pour la maintenance des bâtiments, des petits bâtiments de la marine. C'est des rencontres importantes et effectivement pour qu'on se fasse connaître des entreprises qui ne nous connaissent pas forcément au quotidien, pour qu'on travaille mieux ensemble et plus efficacement.
Et pour les entreprises qui n'ont pas pu participer à ces rendez-vous de l'économie, sachez qu'une vidéo est disponible sur la chaîne YouTube de la CCI. Et puis c'est peut-être les prémices d'une future filière chanvre. Une première expérimentation est menée sur la culture de cette plante qui offre de multiples utilisations possibles. Nous en avons parlé dans les Jeudis de l'économie ce midi. Avant d'arriver à exploiter cette plante à des fins industrielles, il faut la produire dans de bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle l'expérimentation menée en Calédonie est très encadrée, a expliqué le docteur Anne-Claire Gourina, chef du service santé publique à l'ADAS.
L'ADAS a été saisie pour accompagner cette expérimentation, puisque ce n'est pas une plante anodine, parce qu'il y a de très nombreux cannabinoïdes qui ont des effets actifs, dont le plus connu, bien sûr, le THC, qui a la partie génétique qui va jouer, et aussi l'ensoleillement. Donc c'est pour ça qu'on est rentré dans ce cadre de suivi de cette expérimentation, pour être sûr qu'on ne dépassait pas des taux qui pourraient être à l'origine d'effets psychoactifs, parce que là, on est sur des taux en dessous de 0,3%, normalement qui ne provoquent rien du tout chez les individus si la plante, par hasard, aurait été consommée.
Une fois la plante cultivée et produite dans de bonnes conditions, le chanvre peut offrir de multiples déclinaisons industrielles. Elle permet ainsi de produire un béton très utilisé dans la construction, a expliqué le président du syndicat du chanvre, Frédéric Gérard.
Le béton de chanvre, c'est un mélange assez simple de matière végétale et de chaux. C'est la matière qui permet la décarbonation dans le bâtiment aujourd'hui. Et depuis la législation en Europe qui impose une note carbone sur les marchés publics, c'est aussi une des meilleurs moyens de faire baisser sa note carbone et donc d'accéder sur les marchés publics.
Mais le ciment de chanvre, pour le fabriquer, il faut quand même beaucoup de chanvre ?
Il faut un tiers de chanvre et deux tiers de chaux. Et c'est plutôt sur la chaux qu'est le problème aujourd'hui, parce qu'on dispose d'énormément de calcaire en Nouvelle-Calédonie, mais pas forcément de l'énergie pour la transformer en chaux.
La mise en place d'une filière chanvre est donc prometteuse, mais elle n'en est qu'à ses débuts. La production de chanvre, qui pourrait se faire par des structures privées, nécessite la mise en place d'une réglementation très précise.
RRB 18h05.
Initier les jeunes aux fouilles archéologiques. Une opération de fouilles a été menée aujourd'hui sur le site classé de la plage de Fouet à Conné, avec les élèves de terminale de gestion des milieux naturels et de la faune du lycée Michel Rocard de Pointe-Boute. Ils étaient encadrés par trois archéologues de l'Institut d'archéologie de Nouvelle-Calédonie qui leur ont permis de comprendre les interventions des différents corps de métier nécessaires aux fouilles. Donald Théambouéon est professeur d'histoire-géographie au lycée Michel Rocard.
C'est la première promotion, la première classe qui met en pratique cette réforme. Donc dans cette réforme, il faut faire un projet, il y a plusieurs modules. Eux, ils sont dans un module où on est plusieurs professeurs qui interviennent. Le professeur d'histoire géo et le professeur d'éducation géoculturelle. Donc on est deux. Et en gros, il faut qu'ils mêlent un peu nos deux disciplines. Moi, j'ai travaillé un petit peu dans l'archéologie. L'idée est venue après de pourquoi pas, comme on est sur Pointe-Boute, quoi. Et sachant qu'il y a le site de Fouet ici, là, qui est assez réputé au niveau archéologique. Ça s'est bien passé, ils ont pu voir à quoi consiste le métier d'archéologue. Ils ont pu fouiller par eux-mêmes, ils ont pu découvrir des choses. Alors, principalement, on a découvert des morceaux de poterie, des champs de poterie, l'habitat. Donc après tout ce qu'on avait en cours, là, ils ont pu le pratiquer sur le terrain.
Et parmi les 22 lycéens présents pour cette initiation aux fouilles archéologiques, Nora, qui est en terminale section gestion des milieux naturels et de la faune au lycée Michel Rocard.
C'était une bonne journée, puis les archéologues, ils ont bien partagé leurs connaissances avec nous. On a fait des fouilles archéologiques dans un petit carré qu'on a tracé ce matin et puis on a creusé. Et puis cet après-midi, on a un peu plus approfondi les fouilles. Ce matin, on était sur la surface de la terre. On a trouvé quelques poteries lapidaires, des bouts de poteries. Après, on a pu trouver des objets lithiques, des pierres tranchantes. Ça fait plaisir de trouver quelque chose. J'ai beaucoup aimé et puis les intervenants, ils étaient cool et très sympas.
Une opération d'initiation aux fouilles archéologiques qui sera renouvelée avec les terminales du lycée Michel Rocard l'année prochaine. Il est 18h07, des réactions à l'élection de Donald Trump dans la région et le sport, c'est ce qui nous attend dans la dernière page de ce journal.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance, choisissez les ambulances Saint-Jacques 24h sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
Afin de fêter sa réouverture, le Béticurie à Bouraille vous invite à dîner dans un havre de paix et de verdure. Pendant le mois de novembre, les dîners seront offerts pour la première nuit aux clients hébergés. La chambre de deux personnes, dîner inclus, vous est ainsi proposée entre 13 970 francs et 16 930 francs. La suite pour quatre personnes avec jacuzzi privé, dîner inclus, entre 26 860 francs et 33 230 francs. Venez vous détendre et profiter d'un moment de convivialité en réservant en ligne sur le site www.beticurie.com.
Hey! En ce moment, dans nos hypermarchés géants, c'est les méga maxi promos. C'est la folie des produits en promo.
Oui! Il y a des produits gratuits si on en achète un ou deux ou quatre. Des 50% gratuits, des produits Cagnotte Mon Club. En plus, jusqu'au 17 novembre, il y a deux voyages de rêve à gagner tous les jours. C'est pas dingue ça? Aujourd'hui, direction Dubaï et Port Vila.
Viens vite, on y va.
Jusqu'au 17 novembre, les méga maxi promos, c'est dans nos hypermarchés géants préférés.
Géant Nouvelle-Calédonie, le moins cher. Venez comparer.
RRB, première radio d'information.
La suite d'InfoSoir, Jean-François Baudin.
Donald Trump retourne donc à la Maison-Blanche. Le candidat républicain aux élections présidentielles américaines s'est finalement très nettement imposé sur sa rivale démocrate Kamala Harris. Plus qu'une victoire, c'est un triomphe qui lui a valu de recevoir des félicitations et des messages du monde entier, y compris de dirigeants de la région, la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le premier ministre australien, Anthony Albanese, a déclaré que cette victoire de Donald Trump était, je cite, « un moment important pour le monde, pour notre région et pour l'Australie ». Notre gouvernement, a-t-il poursuivi, entend travailler en étroite collaboration avec la nouvelle administration de Donald Trump pour tirer parti des avantages de notre solide partenariat économique. Après avoir, lui aussi, félicité Donald Trump, le premier ministre kiwi, Chris Luxon, a déclaré que, je le cite, « les USA sont l'un des partenaires les plus importants de la Nouvelle-Zélande » et je suis impatient de renforcer nos relations avec leur nouvelle administration. Le chef du gouvernement tongien et président tournant du forum, Siaosi Sovaleni, a dit qu'il se réjouissait de faire progresser les intérêts et initiatives du Pacifique. J'espère sincèrement que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche soit marqué par la paix, l'unité, le progrès et la prospérité pour tous les Américains et la communauté des nations a quant à lui déclaré le premier ministre fidjien Sitiveni Rambuka. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour qui concerne cette élection présidentielle américaine. Êtes-vous satisfait de la victoire de Donald Trump ? Si vous êtes satisfait, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier, 71% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la visite du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale ne peut permettre de rouvrir le dialogue sur l'avenir institutionnel. Ils sont 29% à être d'un avis contraire. Et on termine par le sport avec d'abord cette journée très intense pour des jeunes au stade Pentecôte de Nouméa ce matin. 22 classes de CM2 et de 5e, c'est-à-dire 500 enfants, sont venus des communes du Grand Nouméa pour participer au défi Sport Kids Total Energy. Entre haltérophilie, basketball, tir à l'arc ou boxe, ce sont en tout 14 sports que les enfants ont pu découvrir. Un rendez-vous qui avait pour but de rassembler les jeunes de différents quartiers qui ont pu pour la première fois depuis le 13 mai faire une activité en dehors de leur école.
Là, on a fait du squash. Bah, ça va, c'était bien, même si genre c'est pas trop mon truc. Non, on a perdu. Mais ils ont bien joué.
J'ai essayé de faire de l'haltère. C'était fastoche, ça va. Oui, j'attends de voir encore qu'est-ce qui me réserve d'autres sports.
J'ai fait de la boxe. On a tapé des sacs.
C'était trop bien.
Mais là, vous allez faire quoi comme avec
boxe française.
La boxe française. On va jouer comme des fous.
Avec les autres classes. On va s'amuser et tout. Ça va être bien.
Ouais, au moins, ça change de l'école parce que c'est notre première vraie sortie depuis qu'on est en classe. On n'a jamais fait de sortie.
À cause des événements et tout, bah.
Ouais, et moi, je sais pourquoi on est là parce qu'on a trop bien travaillé à l'école.
Alors.
Voilà, ce défi Sport Kids Total Energy était organisé par le CTOS. Il s'est terminé à 13h. Il était réservé aux élèves de CM2 et de 5e. Les élèves de 6e ont, eux, participé à la Coupe des collèges de rugby, toujours au stade Pentecôte. Tournoi qui réunit normalement les jeunes collégiens de tout le territoire qui s'affrontent en touch rugby. Mais pour cette 8e édition, la Ligue a dû se réorganiser, comme l'explique Sylvain Mafutuna. Il est conseiller technique pour la Ligue de rugby.
Cette année, année spéciale, donc organisation spéciale. D'habitude, on a une finale territoriale. Cette année, on a décidé qu'on allait maintenir l'activité et qu'on allait faire un champion du Sud, un champion du Centre et un champion du Nord de la Grande Terre. On a gardé quand même l'événement. On a récupéré des classes qui n'ont pas fait de PS depuis 4-5 mois. Mais l'engouement des enfants a été formidable puisqu'ils ont voulu reprendre et inciter les enseignants à revenir.
Pour le secteur Grand Nord, c'est Poum qui a remporté la finale du tournoi mardi dernier. Pour le secteur Centre, à la fois le collège de la commune a affronté successivement Wailou, Canala et Kouawa ce matin, en même temps que se déroulait le tournoi dans le secteur Sud. Il est 18h13, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et avec Nicolas pour tout savoir du temps prévu cette nuit.
Alors, cette nuit, les nuages bas s'accumuleront et se bloqueront sur la façade est en donnant parfois de bonnes averses. Au Loyauté, le ciel se dégagera progressivement et le temps redeviendra sec. Sur l'ouest, le vent d'est sud-est mollira progressivement pour s'établir entre 5 et 10 nœuds de secteur est. Ailleurs, le vent d'est à est sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds en soirée, puis se rapprochera des 15 nœuds. Les températures minimales remonteront sur le nord entre 20 et 23 degrés et baisseront légèrement sur Marais et l'île des Pins. Demain matin, le temps sera sec sur l'extrême sud et les Loyautés où un large soleil s'imposera. Sur l'est, la pointe nord et Bélep, quelques averses persisteront. Ailleurs, le ciel sera passagèrement nuageux. L'ouest sera généralement déventé en matinée. Ailleurs, le vent d'est-sud-est soufflera entre 10 et 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur le sud-ouest en fin de matinée, Jean-François.
Merci Nicolas. C'est la fin de ce journal consacré à l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique.